Malheureusement, c'est très facile de brûler en bus dans une rue d'une ville basque. Il y a des endroits, ils sont très forts, surtout les villes petites. Donc c'est possible qu'il y ait du vacarme. Moi, si je vais très souvent au Pays Basque, si j'allais passer mon week-end au lieu de travailler à Saint-Sébastien, j'irais quand même ravi. Mais c'est vrai que bon, ça peut bouger un peu, mais ils n'ont jamais récupéré la force des années 90 où vraiment c'était tous les week-ends où la moitié des villes basques brûlaient.
Sur le plan politique, ça sera ma dernière question. Est-ce que Zapatero prend réellement date pour sa réélection face au Parti populaire?
Oui, c'est vrai que ça va être un enjeu important, mais on ne sait pas très bien à qui bénéficie. Le Parti populaire a toujours joué avec ça bénéficie à eux, mais c'est pas clair à qui ça bénéficie, parce que, soi-disant, quand il y avait la trêve, on pouvait accuser Zapatero de négocier avec l'ETA, mais non, on sait qu'il négocie pas avec l'ETA. Donc, est-ce que ça peut être bénéficieux? On ne sait pas.
Et le pays, ça va en faire ses gros titres?
Oui, oui, aujourd'hui, on a ouvert le journal à 4 sur 5. C'est vraiment l'info la plus importante. Tout ce qui se passe en Espagne maintenant, c'est vraiment très très important.
Guillermo Antara, journaliste d'El País à Madrid. La mort de l'écrivain allemand Walter Kempowski, l'auteur des Colottes et de Chroniques allemandes, est considéré comme un auteur majeur de l'Allemagne d'après-guerre. Autre décès à l'âge de 45 ans, celui d'Alexandra Boula, reporter photographe. Elle avait couvert de nombreux conflits et notamment les événements dans la bande de Gaza. Météo France prévoit un temps instable au sud-est et plus calme au nord. Température maximale de 18 à 24 en général. Voilà, il est 22h, presque 17 à l'écoute de France Culture. C'est l'heure de retrouver Alain Weinstein et Surpris par la nuit. Bonsoir et merci.
Une enfance ouvrière, tel est le titre que Stéphane Bonnefoy a donné à l'émission de ce soir, réalisée par Gaël Gilon, entre fiction et réalité, un monde disparaît à partir d'un hameau industriel où les usines ferment. À 23h30, je vous retrouverai en compagnie de Dominique Grandmont dans Du jour au lendemain. Le poète étonne en publiant un premier récit, Le fils en trop, aux éditions Tarabuste.
Je sais pas combien il fait, il doit faire 200-300 mètres de long, ouais, il doit faire
surpris par
40 mètres, ça fait un hectare et demi. Hein.
La nuit.
Il n'y a plus un chat dans les bâtiments, il reste plus que le service de garde. Le bâtiment principal dont vous parliez, c'est celui qu'on entend là, qui vibre avec voilà. Le vent, là, c'est celui-là. Là, on faisait de l'acier inoxydable. Hein, donc, dernièrement, on faisait de l'acier inoxydable jusqu'en 2004. Ce grand bâtiment là, celui-là serait voué à la démolition, c'est ça?
Ils soutiennent tous, hein. Alors si on en fait tomber un, il faut faire tomber les autres, sinon ils vont tomber tout seuls.
Ah, d'accord, pourquoi?
Parce que c'était conçu comme ça, hein, la charpente est faite, et ce bâtiment-là soutient le bâtiment principal. Là, ça fait 35 mètres, puis voilà. Et puis le bâtiment, enfin, un clocher qui fait 50 mètres aussi.
toi, tu habitais tes parents qui étaient juste là, au droite. Ah, il y en a encore quelques-uns, là, la famille Arnaud, la famille Avellaneda.
Ah oui.
Là, ils sont encore là. Ils sont encore là. Là, il y avait la famille Rogi, là. Il y avait Fatoretto en bas. La famille Segana est toujours là aussi.
Ah oui, tu as des souvenirs précis, j'imagine, ici, qui était un peu la,
la
piste de jeu, la piste de...
Ah, ici, c'était terrible. C'était d'abord la piste de jeu, oui, à bicyclette, les premiers, la première mobilette avec quelques chutes sur cette trajectoire, là, sur cette ligne droite.
Oui, parce que c'est la ligne droite, alors des deux côtés, il y a les villas des deux
côtés. Absolument, avec... oui. Ben, l'urbanisation de l'Ardoise a été galopante, évidemment, au moment où Ugine s'est installée. Il faut imaginer quand même qu'il y avait 2000 salariés à l'apogée de cette unité industrielle, donc ce n'était quand même pas rien pour un hameau qui comptait à peine 250 habitants en 1950. J'ai vécu là 15 ans, au numéro 15 Les Bastides, à l'époque, à l'entrée de l'usine quasiment.
Et ton père faisait quoi à l'usine ?
Eh ben mon père, il était, il a été ouvrier qualifié, et puis après, progressivement, comme cela se pratiquait à l'époque, il a gravi tout doucement les échelons pour être après agent de maîtrise et avoir la responsabilité d'une équipe, quoi. Hein. Après une longue période aussi de ce qu'on appelait les postés, donc qui travaillaient donc 3-4 nuits d'affilée, puis ensuite 2 jours de repos, puis reprenaient les matinées, puis pareil, le même principe.
Hein, toi, tu as grandi dans cette maison
donc. Alors, dans cette maison, et puis là, ma chambre était là, la chambre de mes parents. Ouais. Et pour moi, l'entrée et la sortie de l'usine, les heures d'entrée et de sortie de l'usine, c'était un spectacle vivant. Je me mettais à ma fenêtre, et tous les gens, une grande majorité de personnes me reconnaissaient, parce que pour moi, comme j'étais régulièrement accoudé à la fenêtre de ma chambre pour regarder un peu les dizaines de cars passer, les ouvriers sortir à bicyclette, les gens marcher pour rejoindre leurs habitations, ils me saluaient et puis bon, on finissait par dire tiens c'est le fils de d'Henri, voilà. Et donc il y avait véritablement une atmosphère. Hein. Enfin, moi je veux dire quand je reviens là, c'est toujours pour moi un moment d'émotion parce que c'est des moments forts de mon enfance et de ma première jeunesse, quoi. Donc c'est voilà. Et aujourd'hui c'est calme. Aujourd'hui il n'y a plus cette effervescence mais qui était liée tout simplement à l'activité de l'usine. Ce monstre d'acier qu'on voit là, qui peut un peu choquer aujourd'hui, en tout cas jurer un peu dans le paysage, quelque part, il y a un peu de Beaubourg aussi. Mais je suis, moi, étonné par ce silence.
Hantés par l'écho d'une vie oublieuse, les insomnies de ses apprentis retraités, l'ardoise est mélancolique depuis que son usine a fermé. Enserré dans sa coquille d'acier, le hameau n'est plus qu'un décor trop réaliste, impossible à recycler. Il y a peu, l'ardoise était encore le cœur vivant d'une puissante zone industrielle, nommée par souci d'efficacité géographique, couloir rhodanien. Il vous suffirait de passer quelques heures ici pour entendre la fragilité native de ce hameau. Car si la vie de l'ardoise appartient au passé, ce passé bat encore, et bien au-delà de moi. C'est ici que je suis né, au mois de décembre 1971, dans une maison soumise à l'usine, typique de ces villages à lames préfabriquées. Maison unie par l'âpreté du crépi, qui rappelle aux visiteurs que l'ardoise est un objet usinier à défaut d'être un village. Les jours de pluie, les murs de notre maison se revêtaient du voile sombre de l'humidité. En séchant, des formes inquiétantes se dessinaient. Elles fuyaient l'intérieur même de cette maison, dont quelques pièces demeuraient inhabitées. Les murs de ma chambre portaient les traces et l'odeur d'une autre enfance. Je n'y vivais pas plus que le temps de la nuit. Du jardin, nous apercevions au loin sur le crassier le laitier de l'usine. Une vaste montagne née de l'amoncellement des lambeaux des plaques d'acier. Par jour de grand soleil, elle rayonnait pareillement à un sommet ivre de neige, éblouissant des pans entiers de l'usine jusqu'à les effacer.
T'as une roue qui peut pas tellement en mon état là-dedans. Ben, va tourner en rond, je me dis pas aller. Il est bas en ce moment. Va tourner là-bas plutôt. T'as de la place pour tourner là-bas.
Voilà, c'est tout l'arrière de l'usine là, tu vois. Qui donne sur le rond.
Ah, c'était là avant. L'union locale était là.
Là, demain, on va voir les Bertons, voir le Corsica. Tu vois, on a visité tout ça, nous, ce matin, toute la scierie, là, toute la partie.
Avec le patron.
Ouais, ouais. Là, c'est les Bastides, là, sur la gauche. Là.
On a vu habiter là. Mais ton gîte, il y a vu habiter.
Les maisons ouvrières de l'usine, parce que louer l'usine.
Ça, ça a été construit après.
Et bon, c'était une bonne occasion hein, de re-rentrer dans l'usine. Hein. C'est dommage que tu veuilles pas parce que.
Qu'est-ce que je
vais faire ? Ben, retourner voir.
Les explications, tu les as vues ce matin ?
Enfin, les explications, c'était histoire de revoir les lieux. 81 quand même, ça fait.
J'aurais pu y aller 100 fois puisque.
Il y a pour les journées portes ouvertes, pour les portes ouvertes de l'usine.
Mais j'y ai pas été. Jamais j'y ai été. Je suis pas retourné depuis 81.
Ah ouais, pourquoi ?
Si ce n'est qu'au local syndical. Puisqu'on n'avait pas l'union locale, on n'avait rien. Et on allait de temps en temps au local syndical.
Pourquoi ça te dit pas d'y retourner ?
Parce que oui.
La montagne que vous voyez, c'est le crassier, le fameux crassier.
C'est quoi le crassier ?
Le crassier, ben, c'est le pour faire de l'acier inox, entre autres, on a besoin de beaucoup de fer au silicium pour réduire le chrome, hein, parce que le chrome ça coûte cher, donc les oxydes de chrome, il faut les réduire. Et là, ça fabrique de la silice. La silice, si on fait rien, ça fait des trous dans les réfractaires, parce que c'est très agressif par rapport aux réfractaires, donc il faut neutraliser la silice avec de la chaux. Donc on consomme beaucoup de chaux pour faire de l'inox et ça fait du laitier, quoi. Ouais. Une fois que et ça flotte à la surface de l'acier. Donc c'est un mélange de chaux, de silice, d'oxyde de fer, un peu de manganèse, etc. Donc c'est ça le laitier.
assez impressionnant comme endroit.
Ah ben ça, oui, c'est vrai que c'est un bâtiment dans lequel il y a eu jusqu'à, je sais plus quoi, il y avait une vingtaine de fours électriques dans cette usine-là, à une époque. Parce qu'il y avait les fours à ferroalliage.
Et on produisait combien de tonnes d'acier ici?
Alors ici, on avait une capacité de 600 000 tonnes.
600 000 tonnes.
600 000 tonnes de Brame, ouais. Voilà, donc ça c'est la halle. C'est la halle principale avec les ponts de 200 tonnes. Donc il y en a un qui est parti déjà, qui est allé au Creusot. Et puis bon, il reste, vous voyez, toutes les poches de coulée. Plus loin, vous voyez les deux fours électriques qui travaillent en tandem là. Après le convertisseur, et après la coulée continue. Donc on a espoir de vendre ces outils-là. Donc ben voilà, on attend que ça se décante parce qu'il y a des problèmes pour sortir les matériels pour aller dans le pays final. Ici, c'est une aciérie toute seule dans le désert, puisqu'elle n'a pas d'aval, donc il n'y a pas de laminage à chaud. L'aminage à chaud s'était fait à Fos, donc déjà 100 km de transport. Après derrière, les bobines étaient reparties surtout sur Guignon. C'était pas tout près, donc ça faisait ce circuit assez compliqué et des vieux outils. Alors après, au cours des différentes restructurations de la sidérurgie européenne, bon, quand Arcelor s'est constitué, eh ben, il y avait un train à bande disponible et qui n'était plus utile pour les plaques carbone et qui a été dévolu aux inox. Et puis voilà, à la suite de ça, donc tout a été réorganisé autour de ce train à bande. Les gens de Fos ont récupéré leur capacité de laminage pour augmenter leur propre production. Et bon, bah, quand même, un train à bande, le projet de faire un train à chaud ici a été enterré dans les cartons. Bien qu'en 98, il était prêt de passer une commande ici.
Ouais.
Voilà, donc après, bon, ben, on a dû fermer cette aciérie en premier pour des raisons de timing. Hein. Quand on a fermé cette aciérie, on a doublé la capacité d'une aciérie à Genk. Et puis ensuite, on a transféré nos productions sur Isberg, donc ça a pris quelques temps. Et après, on a fermé l'aciérie d'Isberg aussi. En septembre 2006, l'année dernière.
Et si ça a fermé, c'était en juin.
Là, c'était la dernière coulée en juin 2004.
Dans un lieu où on l'appelait la piscine.
Ouais.
Je disais à ma mère, comme j'habitais, la piscine se trouvait à l'autre extrémité du lotissement, je vais à la piscine. Alors, ça n'a rien à voir avec les piscines telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'était le lieu où un peu les jeunes du quartier, là des Férigouliers, des Cigaliers, un peu se regrouper. On était sur ces terrains vagues, voilà. Puis là, on voit différents quartiers. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai souvenir, alors aujourd'hui ça peut comme ça choquer ou apparaître totalement saugrenu, Mais j'ai le souvenir lorsque je disais à ma mère, ben tiens, je vais aller à Le Roseau ou je vais aller à tel ou tel quartier. Ma mère me disait, ne va pas dans ce quartier, c'est le quartier des ingénieurs, il y a telle ou telle personne. Bon, il y avait comme là aussi un respect des hiérarchies, ce qu'on ressentait, ce que mon père très certainement vivait comme c'est ce poids un peu de la hiérarchie dans l'usine, et bien on le ressentait aussi à l'extérieur. Et combien de fois ma mère m'a mis en garde en me disant, écoute Patrice, tu peux rejoindre, tu peux aller voir tes copains, mais ne va pas là-bas, ne va pas à tel endroit, parce que là-bas c'est le quartier des ingénieurs. Donc on n'allait pas n'importe où non plus dans l'ardoise. Je me souviens, début des années 70, en tout cas fin des années 60, début des années 70, qu'il y avait quand même une camaraderie entre les gens. Les gens, je le disais tout à l'heure, on me saluait ou je les saluais parce que je les reconnaissais pour les avoir, pour avoir vécu un peu avec eux, avec mes parents qui côtoyaient, ben, tout simplement toutes les grandes familles de l'ardoise. Et puis, il y avait véritablement, vous voyez, une camaraderie, une fraternité, il y avait quelque chose de fort. Et puis aussi une inquiétude. Oui, parce que dans les repas à la maison, il arrivait quelquefois que mon père nous annonce l'accident de travail d'un de nos amis, de nos des différents contacts qu'il avait. Et c'est vrai que dans la mesure où nous, la famille, on ne pouvait pas pénétrer dans le lieu, ben on se forgeait un peu une idée du climat, du fonctionnement de l'usine à partir justement de ces conversations, hein, à la maison, autour de la table, bon, ou quand on entendait la sirène hurler, qui venait sans doute à ce moment-là marquer un événement grave. Hein. Quand la sirène hurlait, c'est qu'il y avait eu un événement grave dans l'usine, hein. Quelqu'un qui était brûlé, quelqu'un. Combien de fois on a vu passer les ambulances, combien de fois et toujours préoccupé aussi lorsque, avec ma mère, on entendait cette sirène des fois hurler dans la journée, c'est-à-dire pourvu que ce soit pas papa, pourvu que ce soit pas trop grave non plus, que ça concerne pas quelqu'un du quartier, hein, parce que vous voyez ici, tout le monde se connaissait, on se côtoyait. Hein.
Mais l'usine, par exemple, est-ce qu'elle t'a jamais impressionné au sens de dire, mais j'aimerais y pénétrer, qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'entendais le bruit, les bruits quand même.
On entendait le bruit, les fumées s'échapper de ces monstres d'acier, on voyait ces couleurs orange, rouge, un peu du feu des fours. Hein, lorsque, évidemment, des laminoirs. Souvent, on parle des gueules noires des mineurs, mais moi, j'ai le souvenir gamin de voir mon père rentrer avec la gueule noire. À l'époque, fin des années 60 et pendant les années 70, c'était le cas. Combien de fois j'ai entendu ma mère me dire « Il faut que je rentre mon linge parce que je vais le récupérer tout gris ce soir. » Donc c'est, il y avait en effet quelque chose qui, mais on vivait avec. Mais il y a eu comme une rupture. Juin 2004, c'est quand même une rupture. Aujourd'hui, quand je viens dans ce quartier, que c'est quasiment le silence, on entend les oiseaux. Je veux dire, c'est inhabituel. C'est inhabituel. C'est aujourd'hui, quand je viens ici, c'est pour moi une autre. Il y a quelque chose de qui s'est cassé en effet, qui est rompu.
Au départ, l'ardoise est une bande de terre boueuse qui se noie dans les eaux vitreuses du Rhône. Dans l'euphorie de l'après-guerre, on a bâti près du fleuve quelques structures aussi démesurées que paumées. Un port, une halte fluviale, une base de loisirs. Au début des années 50, on a entrepris la construction d'une série de hangars argentés, prétendument inoxydables. Cet ensemble, lourd pour le sol argileux de l'ardoise, a été baptisé d'un nom sans équivoque. Rhône Acier. Très vite, Un hameau, avec ses maisons et ses commerces, y a été élevé et a grandi dans l'ombre de l'usine. Mais rien à l'ardoise n'a été construit pour durer. Le port n'a jamais été équipé que d'une grue sans envergure, aujourd'hui fantomatique. Un Algeco laissait deviner la présence de la halte fluviale. Quant à la base de loisirs, si elle a reçu le nom d'un champion olympique des années 50, paraît-il présent le jour de l'inauguration, on ne l'a fréquenté qu'un seul été. La 16, un des affluents du Rhône, en s'y jetant plus en amont, créer des courants peu compatibles avec les jeux nautiques. Toutes ces constructions demeurent à l'ardoise, usées par des années d'ennui et les fumées de l'usine.
Il y a d'autres, des anciens de l'usine qui retombent des fois, qui y sont retournés, ou ils ont tiré un trait, ils ne veulent pas y remettre les pieds ou...
Moi, je n'en connais pas, si tu veux. Peut-être, tu tournes pas là, là, là.
Ouais, ouais.
À droite. Voilà, là. Petite gare à l'ombre à gauche, là. Voilà. Bien équipé. Voilà, tiens. La photo qu'un copain avait pris. C'était l'atelier où je travaillais, moi. J'étais contremaître là. À fabriquer.
C'est ce qu'on a vu ce matin, en fait. Ouais, ça, c'est ça, les poches là qui nous ont.
Ah, ouais, je pense pas que ça existe. Ça, c'est rasé, ça. Hein. Je pense, hein. T'avais le pont de Saint-Anne, là. C'est peut-être celui-là qui a disparu, d'ailleurs.
Non, mais il nous expliquait qu'il y avait des gens qui étaient dans les cabines, tout ça, mais en fait, ils étaient quand même pas très loin de la coulée, quand même.
Quand tu basculais le four, tu étais devant la coulée, hein. C'est-à-dire, les fours à mélange fondu, tu basculais à environ 1900-2000 degrés, quand même. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de chaud, la chaux est très réfractaire. Et ça, c'est à peu près... On venait de me virer... de l'atelier.
Ah oui, donc c'était les années quoi ?
C'était en 62-63. Moi j'étais viré en 62, donc 64-65, je sais pas.
Mais le procédé c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire une espèce d'énorme godet qui transmet la coulée.
C'est l'opération de brassage, ça c'est une opération de brassage. Tu vides une poche dans une autre poche pour faire l'émulsion, tu vois.
Ouais.
Mais tu bascules dans cette poche. Dans un premier temps, le four il est là, tu le vois pas. Tu bascules le four là-dedans, puis après pour le brassage, tu verses là-dedans.
C'est comme deux gros pots, quoi. C'est on dirait des pots de fleurs, mais puissance 1000, quoi.
Mais tu vois la dimension du bonhomme.
Ouais.
Et alors après, il fallait, si tu veux, une autre opération avant. Quand tu coulais en lingotière, parce que le ferrochrome suraffiné, tu le coulais en lingotière, dans les lingotières plates. Et tu basculais, et c'est le métal qui était plus lourd, qui tombait le premier. Et puis lui, le premier de brassage, il surveillait. Dès qu'apparaissait le laitier, qui n'était absolument pas la même luminosité que le métal, il faisait rebasculer. Et c'est le laitier qui restait, donc les déchets, en quelque sorte, étaient foutus en l'air. C'est ça qui a pollué un petit peu le sud de l'usine. Voilà. C'est pénible. Tu regardes le sol.
Voilà, mais c'était une usine attachante parce que... il y avait beaucoup de savoir-faire, il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intérêt pour le travail. Les gens étaient passionnés, quoi, par leur boulot, et on était plutôt en avance sur les autres à l'époque. je pense qu'on jouait dans la cour des trois meilleures aciéries mondiales en inox. Et bon, si on avait continué à investir dans le domaine des fours électriques, on le serait sûrement resté. Alors après, bon, on était hors jeu dès lors qu'on a décidé de laminer en Belgique. On avait un handicap de transport qui était insurmontable, puisque ça représentait un quart de nos coûts, donc on pouvait pas réduire nos coûts d'autant, hein, c'était pas possible.
C'est-à-dire que c'était vraiment, il y avait un savoir-faire au-delà du fait d'appartenir à un grand groupe.
Oui, on avait
spécifiquement,
on avait une spécialité sur les aciers ferritiques et ferritiques au titane, où on avait un niveau de qualité qui semblerait qu'aujourd'hui les autres aciéries n'ont pas retrouvé, quoi. Et on avait une reconnaissance de nos concurrents dans ce domaine. Donc ça, on était fiers aussi de la méthode.
Dans cette alcôve du couloir rhodanien, une vingtaine d'années après Rouen Acier. À cette époque, son activité économique rayonnait sur la France et même l'Europe sidérurgique. Elle rivalisait, tant par la qualité de sa production que la défense de la condition ouvrière, avec la puissante Allemagne. Plus de 1800 ouvriers et cadres travaillaient dans son ventre. À cette notoriété s'ajoutait celle du premier régiment étranger de génie, planté sur des hectares de garrigues à la sortie du hameau. À l'exception du jour de la fête de Cameroun, les légionnaires se montraient discrets. Quelquefois, le nom de l'ardoise sortait de la bouche du présentateur des infos télévisées à l'occasion d'une campagne du 3e Reg au Tchad ou au Liban. Mais la vraie fierté de l'ardoise, c'était Rouen Acier.
Difficile, je pense à celui de la dernière coulée en juin 2004.
Ça a été particulièrement émouvant. Et là, on a vu des costauds, des gens qui, des meneurs d'hommes, des managers, etc., etc. Nous, on les voyait discrètement se planquer parce qu'ils ont allé verser une alarme. C'est aussi clair que ça. C'était fort. Le moment de fermeture de la dernière coulée, c'est quelque chose qui était très très fort. Et les gens ont gardé cette dignité parce que les gens avaient cette colère-là. En fait, je sais pas, votre papa dû vous en parler, un truc comme ça. Cette colère, ce truc de dire, bon, ben, on nous abandonne, on nous laisse tomber, on a un outil de production qui tient la route et tout. Et puis là, on le ferme, on comprend plus rien. Et malgré ce truc-là, ce coup de colère, on dit, bon, on risque d'avoir des débordements ou un truc comme ça. Il y a eu cette dignité jusqu'au bout où les gens ont respecté leur outil de travail. Mais jusqu'à la dernière seconde, j'ai envie de dire. Et ça, c'était assez impressionnant. Ça, c'était remarquable. C'est vraiment quelque chose de... On est fait comme ça. On tenait donc à notre outil de travail. Visiblement, les gens étaient très attachés. Et c'est vrai qu'on est attachés à notre outil de travail, parce que finalement, on y passe autant de temps qu'à la maison, sinon plus. Voilà. Juste avant d'arrêter notre activité, c'est-à-dire en décembre 2003, où il y a eu les inondations, où il y avait des travaux énormes à faire pour redémarrer pour 6 mois, parce que nous savions que nous allions arrêter. À l'époque, c'était M. Bonnet, donc, qui était directeur du site, nous annonce, le 12 janvier, on redémarre. Personnellement, j'y croyais pas. J'ai dit non, c'est pas possible. Avec quelle énergie on a vu les gens qui travaillaient ici sur ce site, des gens qui n'étaient pas placés encore, qui ne savaient pas où ils allaient atterrir 6 mois après, avec quelle énergie ces gens se sont mobilisés pour remettre en état leur outil de travail. Ça aussi, c'est des trucs qui sont impressionnants. Là, c'est des trucs qui vont me rester. Voir un petit peu comment la nature humaine peut se mobiliser devant des éléments.
Alors qu'ils savaient que 6 mois plus tard...
Ils savaient, mais il y a des gens qui étaient traumatisés, je crois qu'on peut dire le mot, qui étaient traumatisés parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Je voyais des gens qui étaient moralement très affectés. Eh bien, il a fallu redémarrer dans la boue, dans un truc comme ça. Mais les gens se sont donnés et on a démarré dans les temps. Et là, moi, je dis, chapeau, franchement... c'est irréversible. Alors c'est vrai qu'il y a dans les hautes sphères, Berthe et l'or s'est rapproché de Mittal, les philosophies ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais même avec ça, quoi, je veux dire, ceux qu'on nous a rencontrés en 2003, en disant en 2004 vous fermez parce qu'économiquement vous n'êtes pas viable, vous êtes à un taux de production qui est inférieur à la moyenne, c'est inférieur à 1 million de tonnes, vous n'êtes pas un site intégré, donc vous êtes mort. Si aujourd'hui on disait tiens, on redémarre un four parce que effectivement la grosse structure elle est un peu plus grosse, elle est en bon état, etc., etc., je dirais mais enfin, c'est un commentaire, je n'ose pas dire le nom. Pour moi, on est qu'une. Et même j'ai hâte, c'est mon opinion tout à fait personnelle, c'est qu'on la rase, qu'on passe à autre chose, qu'on recrée quelque chose et qu'on crée des emplois durables. Dans quelque chose, dans une activité moderne qui, aujourd'hui, la psychologie, je vais le dire, pour nous, c'est une autre, on n'a plus d'innocence en France, etc., etc. Bon, pourquoi on en ferait quelques coulées maintenant? Non, c'est fini. Vous avez choisi, on passe à autre chose, maintenant on dégage, et puis on redonne les lieux, et puis on refait autre chose sur ces lieux, voilà, c'est tout.
J'ai été pénétré par l'autorité du discours syndical de mon père. Avec ses mots d'ordre mécaniques, cette parole s'auto-alimentait jusqu'au comble de la foi, jusqu'à user le désir d'autres mots. L'usine était commandée par une force secrète. Je voyais le visage boursouflé du patron qui la détenait et dont le pouvoir tyrannique opérait sur mon père l'ouvrier, le syndicaliste sournoisement harcelé. Chaque fin de matinée, je quittais l'école en direction de la maison de mes grands-parents. Nous nous y retrouvions tous pour le déjeuner. Sur ce chemin, peu avant midi, je croisais mon père devant les grilles de Renacier. Parfois, je traversais la nuée d'hommes en bleu qui l'entouraient pour m'imposer près de lui. Aux côtés de ceux que je croyais être ses hommes, il distribuait des brassées de tracts blancs, rose ou jaune, froissé et rejeté par le mistral. Aucun milieu ne m'apparaissait plus viril, plus étranger à celui de l'enfance. Son indifférence ne m'affectait pas. Près de lui et aux portes de l'usine, j'étais au plus près de leur mystère. Mon grand-père paternel était marqué au fer rouge. Il a fait embaucher son fils après avoir menacé le chef du personnel. Au comble de son impatience, mon grand-père lui a retourné le bureau. Mon père est entré à l'usine peu après ma naissance. Lorsque mon grand-père est parti à la retraite, il lui a repris le flambeau syndical. Chaque midi, assis entre deux dans la cuisine un peu sombre de mes grands-parents, j'étais témoin de leurs discussions tendues sur l'avenir de l'usine. J'entrais tout entier dans leur gravité. Je me nouais à leur crainte de la voir, un jour prochain, fuir l'ardoise. Comment pouvais-je me départir de ce combat? Elle s'échapperait avec l'aide du Rhône, vers une région lointaine. Mon index posé sur la carte de France, je remontais le cours torturé de la ligne d'eau bleue.
et j'imaginais ces pays ennemis où elle poursuivrait sa vie, parmi d'autres de son espèce. Pas de Calais, Meurthe et Moselle, voire la ténébreuse Roure.
Difficile, c'était le moment de déconstruction, j'ai envie de dire, quand on est passé à la phase, par exemple, qui est d'évacuation des transformateurs, où on rentrait dans des salles électriques ou dans des cellules, ou des salles électriques qui étaient protégées, je veux dire, chaque fois qu'on dépannait, on dépannait. Donc c'était le maintien de remise en état. Et là, on démolissait, c'est-à-dire on enlevait du matériel pour sortir des éléments, des cœurs des éléments. Un gros transport, sortir le transport, on savait que derrière, on ne pouvait plus rien faire. Un truc est tout con, si vous venez dans un bâtiment où, quand le jour où j'ai arrêté le poste de tension, j'ai éclairé la lumière, et je savais qu'à un moment donné, au dernier bouton, j'aurais plus de lumière, que c'était fini, que c'était ultime. Et ce truc-là, ben, on a fait avec Jean, Brun de Jaune, l'angard de Spi qui m'aidait. Bon, on a fait durer le plaisir. J'ai dit, Jean, dans quelques secondes, on n'aura plus de lumière. On n'a plus rien. On n'a plus de vie. On est mort. Il n'y a plus rien. Entre une usine, on a vu des usines arrêtées, soit par des réflexions de moins en moins, par exemple des grosses grèves, un truc comme ça, on a vu une usine qui était arrêtée. On avait toujours un petit quota de 2-3 bonhommes de sécurité, et il y avait toujours dans ces bâtiments de la vie, parce qu'il y avait déjà de la lumière, et puis il y avait de la chaleur, il y avait les poches qui étaient toujours en chauffage. C'était un impératif, il fallait que les poches... Donc on avait toujours au moins des brûleurs qui fonctionnaient. Donc on avait toujours le bruit de ces brûleurs, etc. Même en cas de grève, c'était jamais le silence. Là, maintenant, c'est arrêté, ça n'a arrêté, plus rien. Même le dernier jour, là, c'était le 16 mars de cette année, où on a arrêté le poste de tension, là, c'était le silence le plus... On n'avait même plus le ronronnement des transformateurs. On n'avait plus rien. Silence complet, silence radio. C'est la seule différence. Mais d'aspect, bon, ça a été un peu nettoyé. Bon, rien qui vous... Tiens, on peut démarrer demain, quoi. Vous envoyez n'importe qui était là, on peut démarrer demain. Silence, je l'ai vécu le dernier jour. Le dernier jour, vraiment.
restaurant du hameau était planté face aux grilles de l'entreprise. Peu avant midi, celle-ci retenait plusieurs centaines d'ouvriers dans l'attente du signal. Un knut nasal qui ne ressemblait à aucun des autres bruits qui émaillaient, à intervalles réguliers, l'environnement de Renacier. Dans cette attente, mon père se tenait en retrait du reste du groupe. Il privilégiait, si l'on peut dire, un militantisme de corps à corps. Il se noyait parmi les ouvriers, puis en rejaillissait avec l'un d'eux pris dans la masse. À force de petits pas chassés, sans interrompre son monologue, il plaçait son interlocuteur hors de l'attroupement. À quelques centimètres à peine de lui, il se tenait prêt à l'embrasser, ou peut-être à le violenter. De loin, on pouvait le croire. Ce tête-à-tête pouvait durer quelques dizaines de minutes. L'ouvrier trépignait d'impatience, comme pressé de retrouver sa famille le temps du repas.
Alors, ça fait une différence. Et quand tu nous as quittés, tu avais 11 ans. Tu te rends compte hein?
Ce restaurant de l'Ardoise avait été ouvert une vingtaine d'années après l'usine, vers la fin des années 50. Loulou, le patron, l'avait bâti de quelques planches. Sur le stand rouge décoloré, on lisait « Chez Loulou » et, un peu plus loin, « Le Corsica ». C'était une espèce de cabanon à l'allure ébranlée. Les vitres en étaient fumées, ou peut-être sales. Une vraie cabane, gavée de chaises et décorée de paniers de fleurs séchées, de miroirs biseautés et d'autres vieilleries. Un Capharnaüm si joyeux qu'à l'intérieur on ne devinait rien de la précarité de la construction. De toute façon, l'usine écrasait tout le paysage. Dès les premiers beaux jours, Loulou disposait d'un jardin d'été et d'une tonnelle coincée entre la voie de chemin de fer et la route, laquelle conduisait vers l'impasse du Rhône. La formule du jour écrite à la craie sur une ardoise, plat unique et généreux, vin compris, séduisait les ouvriers comme les cadres. Vivant, poussiéreux et masculin, chez Loulou, on était encore un peu à l'usine.
C'est vrai que, disons, ça se passe vite hein, pour que les herbes envahissent et tout redevienne sauvage. Hein. Ça va très très vite. Hein.
Alors vous, Michel, vous faisiez la cuisine, c'est ça?
Oui.
Et Loulou, il était, je me souviens, au bar.
Au bar. Loulou, disons, il était, disons, il recevait les gens quand il n'y a pas de serveuse. Hein. Il recevait les gens, il les plaçait, il faisait les cafés, il encaissait et il discutait.
Oui, il discutait.
Au comptoir.
Puis il y avait une solidarité avec l'usine, mais avec l'usine quand nous sommes arrivés. Il s'est passé des trucs comme si on aurait fait partie de l'usine. Hein. Alors on avait des problèmes d'électricité, quand on allait demander à un ingénieur on nous avait quelqu'un de l'usine qui nous réparait. Plein de petits avantages comme ça qu'on avait. Mmh. Ouais, c'est rare. Hein. Mmh. Et puis après, justement, dans les années 80, 82, là, ça a changé tout ça. Ouais. Ça n'a plus marché.
Ben, il savait peut-être déjà que, bon...
On avait l'eau de l'usine gratuite.
Hein. C'est vrai.
Ah ouais. C'était de l'usine, elle était gratuite. Hein. Jusqu'à ces années-là, ça a duré.
Mm-hmm. C'est vrai qu'on était un peu, disons... On était là un peu la cantine de l'usine, pour qu'on te fait. Parce que peut-être ça...
Le restaurateur était de Marseille.
Ça les arrangeait, voilà, parce qu'il y avait des...
Sa femme s'appelle Michel.
Des entreprises qui travaillaient très tard...
Un long couloir sombre séparait la salle du restaurant des cuisines. Une porte de ce couloir ouvrait sur leur chambre, une autre sur le salon. Parfois, je poussais l'une d'elles. Je quittais l'atmosphère enfumée du restaurant pour l'odeur intime de leurs appartements. Ainsi, je ne gênais pas le travail de ma mère qui parfois aidait au service. La porte du restaurant ouverte, je retrouvais dans le souffle chaud d'un courant d'air l'odeur irritante et âcre, mêlée, du Rhône et de l'usine.
Qui est terrible là-bas. Ben. Il n'est pas entretenu. Il n'y a pas d'eau, rien, et il a fait des grenades. Hein. Ouais, Là, pareil, ce poste de garde, là, ils ont fait un poste neuf. Ils ont rangé devant l'usine. Parce que c'était pas rangé comme ça, même. Et bien, quand ils, ils ont su qu'ils partaient, ils ont tout bien rangé, refait un poste de garde neuf, tout ça. Fait un peu de jardin devant. Ça n'existait pas, ça, même. Hein. C'était des barrières, et les entrées pour entrer, c'était tout. Et là, on dirait qu'elle marche, l'usine. Oh là là.
Administrativement, l'Ardoise est rattachée à la commune de Laudun, un village cerclé de vignes et situé à 3 km au nord du hameau. C'est à la fin des années 40 que l'Ardoise s'émancipe autour de Renacier. Depuis ce temps, son architecture hasardée n'a guère évolué. Le hameau s'articule maladroitement autour de petits immeubles et de maisons ouvrières, mais aussi de villas, près desquelles subsistent quelques hectares de vignes et de terrains vagues. Les premières habitations de l'Ardoise furent construites par Renacier pour ses ouvriers, dans son environnement immédiat. Puis ce fut au tour du quartier des Cadres, un alignement de vastes bâtisses équipées de fosses septiques à la sortie du hameau, loin des nuisances de l'usine. Il n'y a pas de centre à l'Ardoise. Sinon, un carrefour où se croise la voie communale filant vers l'Audin, et la route nationale qui, de la ville de Vivre, rejoint un péage de l'autoroute du Sud. 4 ou 5 commerces, aujourd'hui disparus, nichés au rez-de-chaussée de petits immeubles, se disséminaient dans les recoins du hameau. Ils restaient introuvables pour le commun des passants. Une seule chose fut pensée pour l'Ardoise. La disposition des parkings qui devait faciliter les différents accès de l'usine aux ouvriers. Je voudrais dire quelques mots sur la voie communale qui traverse de part en part le hameau. Elle trouve sa source dans l'impasse du Rhône, puis longe un des flancs de l'usine avant de couler jusqu'au carrefour. Peu après Renacier et la petite côte formée par la voie de chemin de fer, elle se déroule dans une fosse perspective pleine de mauvaises surprises pour les piétons et les véhicules de passage. C'est à ce niveau où la route s'affaisse puis rebondit, que nous habitions avec mes parents, lotissement Les Bastides. À tout instant, un poids lourd au ventre plein pouvait s'échapper de l'usine. Quelques mètres après le franchissement des grilles, l'engin était masqué par la côte du passage à niveau de la voie ferrée. Si vous sortiez au même instant du lotissement, le camion se retrouvait en un éclair devant vous, votre auto. Entre Les Bastides et le carrefour, la route est tailladée de nombreux chemins. Ceux-ci desservent principalement les anciennes villas des Cadres. Ces saillies obligent les automobilistes à de fréquents ralentissements, que peu observent. Les plus dangereux étant évidemment les plus pressés. Souvent, je me suis arrêté sur l'expression concentrée de ces chauffards, masqués par le miroir trouble de leur pare-brise, prisonniers du maître suivant. Et je me demandais s'il fuyait l'usine ou la monotonie d'essence née du prolongement de la route vers l'impasse du Rhône. Sinon, L'ardoise est d'une surface plate. Le passage à niveau de l'usine est son plus haut point. Il culmine à 42 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'impasse du Rhône se nomme Camille Langevin. Logé contre l'usine, Camille Langevin est la vraie rue de mon enfance. C'est ici, au début des années 70, que mes grands-parents y ont construit une maison en pierre, au toit pentu comme un refuge. Cette rue est une impasse. Mais on peut en sortir sans faire marche arrière, ce qu'ignoraient les visiteurs de l'usine, qui ne s'aventuraient guère au-delà du panneau sans issue. Officiellement, l'impasse débute après les grilles de Rhône-Acier, que l'on laisse sur sa droite. 200 mètres plus loin, la maison de mes grands-parents passés, elle forme une boucle et flirte dangereusement avec la berge du Rhône. Ici, la voie se referme sèchement dans une sorte de goulot. Puis, s'ouvrant à nouveau, on découvre la plaque qui célèbre l'ancien ouvrier tourneur, condamné à mort par contumace pour sa participation à la Commune de Paris. Camille Langevin. L'odeur des gaz imprègne ce tracé sinueux. Plus on délaisse le Rhône, et plus le goudron s'émancipe. Le nœud se desserre tout à fait au moment de contourner la plus noble villa du quartier, celle qui accueillait le comité d'établissement de l'usine. La boucle de l'impasse s'achève devant la grille de son immense parc. Enfin, on retrouve la maison de mes grands-parents. Camille Langevin s'enfuit alors vers Rhône-Acier, la voie ferrée et le carrefour. Insensible au démantèlement du temps. Elle est comme la mémoire de ce révolutionnaire français accroché à sa vieille plaque d'émail bleu. Camille Langevin a été la figure romantique de mes premières années. Sa tête, avec sa chevelure ébouriffée, était décalquée dans un coin de la plaque. Camille Langevin avait tout dû sacrifier. La fatalité de sa condition l'avait fait rompre avec le sentiment. Il était pour moi, pareil à ses militants, proche de nous. Cette expression, je l'entendais fréquemment. On l'employait pour qualifier un sympathisant, un de notre famille d'idées. Mon père l'a prononcé lui aussi, sans fierté excessive, et toujours dans un contexte syndical ou politique. Il avait une faiblesse dans la voix, proche de nous. Au moment d'écrire ces lignes, je revois certains parmi ceux qui furent proches de nous.
pour la plupart des Camille Langevin, le corps pris dans l'acier des sentiments. La plaque d'émail bleu est fixée contre la maison des syndicats, qui fait face à la maison de mes grands-parents. Lorsque je la frappais avec ma balle de tennis ou mon ballon, elle ne me rendait pas le moindre son. Par contre, j'évitais de viser le portrait de l'homme à la barbe rouge. Le mur de la maison des syndicats servait également de panneau électoral. Mon grand-père régnait sur l'affichage de la rue Camille Langevin. Même s'il n'était que rarement élu, longtemps j'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul candidat en lice, celui du Parti communiste.
Et là, à l'union locale, il y a toujours...
Nous, on se réunit, alors, tu vois, on a une offset, une photocopieuse, puis on a Internet.
Et depuis la fermeture de l'usine, il y a un peu moins d'activité ou pas, non? Il y a beaucoup de retraités, non?
Ah bah oui, l'activité est faite en général par les quelques retraités qu'on est, quoi. Sur place, on n'est pas nombreux, à l'Ardoise, on n'est pas nombreux. Le syndiqué. Mais en tout d'être quand même encore une soixantaine.
Beaucoup d'anciens de l'usine.
La plupart d'anciens de l'usine, oui.
Et à l'usine, vous étiez combien de syndiqués
On était, je le disais aux copains, on était plus de 700 syndiqués à la CGT. Sur 1800, c'était pas mal. Ouais. Tout ça, c'est à notre disposition.
Et on voit même l'usine d'ailleurs en face.
Ouais.
De toute façon, on la voit un peu de partout dans l'Ardoise. Hein. C'est dès qu'on arrive. Et le bâtiment là qui est tout en haut, qui paraît être neuf, celui-là, non, c'est un des derniers qu'ils ont.
C'est-à-dire, il a été rénové juste avant la fermeture. Ouais. Si tu veux, c'est certainement pour donner un peu plus de valeur à l'usine. Ils l'ont rénové entièrement. Tu crois qu'il est neuf, effectivement, il est neuf. Mais il a été remplacé quelque temps avant la fermeture de l'usine.
Ouais.
Voilà.
Et tu te souviens, toi, de la dernière coulée, tout ça, là, quand l'usine a fermé
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Quand j'ai fini ma carrière, moi, tu sais, il m'avait mis aux économies d'énergie. C'était moi le grand patron des économies d'énergie.
Voilà. C'était un peu un placard.
Voilà. Mais il y a eu pire, hein.
Ouais.
J'étais directement, si tu veux, contrôlé
par... C'était symbolique, c'était en 81, l'année de...
C'était... Il y a eu, quelques temps avant, il y a eu la crise du pétrole, tu sais, là.
Ouais.
Et pendant 2-3 ans, j'ai calculé comment réduire la consommation d'énergie électrique. Alors, il a fallu que je me replonge dans mes livres de physique.
Il y a beaucoup de monde qui est parti en 81 quand tu es parti, non?
220.
220 ?
Ouais. Environ, je crois.
C'était un peu le début de la fin, 81, où il y avait eu d'autres vagues avant de
la licenciement. Première vague, 79, mais il y en a eu très peu.
Ouais.
Et 81, c'était le gros coup. Là.
Le 79, c'est l'année où il y a eu la signature du plan acier.
Voilà, la convention de la sidérurgie. Ouais. Qui liquidait en quelque sorte la sidérurgie française. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, quoi. La première de ces régions, c'était, je disais, liquider les centres ouvriers, les centres où la CGT était très bien organisée. Et puis voilà. Tu vas en Lorraine, maintenant c'est pareil, syndicalement, tu vas en Savoie, c'est pareil. Alors qu'on était vachement bien structuré dans ces régions-là. C'était purement politique. C'était la première des raisons était politique. Le patron ne l'a pas dit là-bas.
bâtiment bistre et les hauts fourneaux de l'usine font corps avec le bitume. Combien de fois, curieux du spectacle infinitésimal, mon regard s'est-il perdu dans la matière tourmentée du revêtement de la rue Camille-Langevin. Faut-il dire que tous ceux qui n'ont jamais pénétré l'usine se sont exagérément accrochés à ces moindres détails. J'observais les plissures fines du goudron à la naissance de l'impasse. Ces marques étaient pareilles aux rides que le temps grave sur un visage. Bien après la dernière pluie, et malgré le feu du soleil, ces plis se gorgeaient d'une eau féconde, salie par les particules de terre qui s'échappaient du trop-plein des camions sous les tremblements du passage à niveau. Longtemps, j'ai cru que ce quartier était posé sur le lit du Rhône, qu'un océan sans fond reposait sous nos pieds, qu'un jour, la charge de l'usine nous y précipiterait. Sous le soleil, l'eau recluse dans ses plis finissait par former une croûte épaisse, constellée de la poussière des métaux. Partout sur le sol, je voyais des rustines magiques qui nous sauvaient de la résurgence des eaux sombres du Rhône. Entre le passage autrefois des roues des camions, subsiste une bande de goudron étonnamment lisse. L'usine fermée, on ne refera pas la peau goudronneuse de la rue Camille-Langevin. Année après année, le Rhône perd du terrain sur l'impasse. Il recule, asséché par le limon. Mais le Rhône est vengeur. Épisodiquement, il revient par vagues et nous inonde, nous couvre de boue, nous contraint à nous laver de tout. L'automne qui a suivi la fermeture de l'usine, j'ai vu pour la première fois le portrait de mon arrière-grand-père. Sa photo flottait dans la salle à manger de mes grands-parents. C'était un ouvrier rouge auvergnat au regard sévère. Il posait avec une solennité propre aux images du début du siècle passé. Une fois l'eau retirée, nous fîmes sécher une galerie de portraits de mes ancêtres sur la cuve à mazout, dans le jardin de la rue Langevin. À leur côté, il y avait aussi deux gros volumes de l'Humanité clandestine. Ouvert dans sa moitié, je me souviens que l'un d'eux titrait « La bourse va rouvrir, mais les usines restent fermées. Travailleurs, ouvrez-les, faites-les marcher. » Depuis l'impasse de mes grands-parents, on accède au Rhône en empruntant un raidillon grossièrement viabilisé. Encore avait-on aménagé ses abords au temps où le comité d'entreprise y développait des activités nautiques. Dominé par l'usine, le Rhône ici est sauvage. En le pénétrant d'un mètre à peine, on s'enfonce jusqu'aux genoux dans une vase gluante. Cette matière sombre, jamais draguée, entretenait le trouble parmi les amateurs de voile. Ma grand-mère avait pris pour habitude d'y noyer des portées de chatons abrutis à l'éther. C'est tendu à ses pieds que l'on appréciait le mieux son mystère. Sur une plateforme limoneuse, née entre le fleuve et l'usine, un chemin s'était peu à peu dessiné. Il m'apparaissait toujours plus long et inquiétant, même si je grandissais. En le suivant, la nature se révélait toujours plus neuve, malgré l'ombre portée de l'usine. Des armées d'alluvions rassemblées en ordre serré avaient gagné depuis les premières années de mon enfance des dizaines de mètres sur le fleuve. Plus loin dans ce chemin, une presqu'île se développait à une vitesse surprenante. Je voyais pousser les arbres. Ils étaient fins et vertigineux dans la perspective des blocs industriels. Enracinés dans un sol si fragile, le moindre bruissement de leur feuillage suscitait l'inquiétude chez le promeneur. Ce No Man's Land était un pur produit de l'usine. Son prolongement surnaturel. Son avenir incertain. Sur la presqu'île se dévoilait à peine un tunnel du diamètre d'un enfant. J'aurais pu m'y glisser. Il surgissait d'un remblai de pierre, trouvant quelque part sa source dans un hangar de l'usine. Ce tube rutilant jetait une lumière froide sur la nature et lui offrait un surcroît de luxe. Il relâchait dans une épaisse fumée les eaux chaudes et usées. Celle-ci avait creusé dans la terre et jusqu'au fleuve une veine rectiligne. Sous l'influence de ces liquides aux couleurs changeantes, une autre nature, moins flamboyante, s'était imposée le long de ce bras. Une frontière était marquée, qui troublait l'union de la terre du Rhône et de l'usine. D'ici, et malgré mon héritage, je pardonnais Ronacier d'apprendre à nous quitter. Enfance ouvrière, un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisation Gaël Gillon, mixage Philippe Palares, Vincent René, coordination Anne-Vanessa Prévost, avec Patrice Prat, Maurice Bonnefoy, Yves Bonnet, Michel et Loulou Berton, Bernard Huguetto. Musique de Jean-Sébastien Bach et de Bieber.
Vous écoutez France Culture.
Bonsoir. Du jour au lendemain, avec Dominique Grandmont, qui publie Le Fils en trop, un récit, aux éditions Arabuste. De sens qu'à se chercher dans la nuit des mots. de nombreuses traductions, Dominique Grandmont. Je vous ai reçu dans cette émission quelques fois pour parler, par exemple, de Vladimir Holan, de Yanis Ritsos, beaucoup de poètes grecs d'ailleurs vous avez traduit, hein, Constantin Cavafy, d'autres encore. Et puis à un moment, vous avez tenu une chronique de poésie contemporaine dans un journal du matin, je ne cite pas lequel.
Parce que il y avait une faucille et un marteau.
Vous ne voulez pas en parler.
Bon, maintenant je me lève beaucoup plus tôt que...